Véroy Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir. Bienvenue dans cette édition du lundi 18 janvier 2021. Eric Mandela-Kiza à la présentation. Voici d'abord les titres. En Centrafrique, la Cour constitutionnelle a validé la réélection au premier tour du président Faustin Archange Touadéra. L'accès à Internet partiellement rétabli en Ouganda, où l'opposant Bobby Wine est assigné de fait à résidence. Des affrontements entre tribus au Darfour font plusieurs morts. Ici aux États-Unis, Joe Biden sera investi mercredi dans une capitale américaine transformée en camp retranché après l'assaut meurtrier contre le Capitole le 6 janvier. Également dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports, mais tout d'abord le journal. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a été proclamé aujourd'hui réélu par la Cour constitutionnelle qui a toutefois reconnu que 2 électeurs sur 3 n'ont pas pu voter. La juridiction suprême a rejeté les recours en annulation du scrutin de 13 des 16 rivaux du chef de l'État sortant, Freeman Sipila.
La décision de la Cour constitutionnelle met ainsi fin à plus de 2 semaines de tergiversation autour du scrutin présidentiel du 27 décembre 2020. Ouvrant la séance, la présidente de la Cour constitutionnelle, Mme Danielle Darlan, a fait cette mise au point. Je tiens à préciser avant tout que la Cour n'a reçu aucune pression ni du chef de l'État en exercice, ni du gouvernement, ni du représentant du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, ni d'une quelconque ambassade, a-t-elle martelé, précisant que les juges ont travaillé en toute indépendance. Après lecture des commentaires et du rapport final sur les requêtes de l'opposition, la Cour fait des redressements, invalide certains bureaux de vote, mais valide la présidentielle du 27 décembre. Elle déclare Faustin Archange Touadéra réélu au premier tour avec 53,16% des voix, légèrement en deçà des résultats de l'Autorité nationale des élections, qui l'annonçait vainqueur avec 53,92%. Il est suivi de son principal challenger, Anissé Georges Doleguélé, 21,69% des voix. C'est la liesse dans le camp de Faustin Archange Touadéra et de ses soutiens. Cependant, un silence absolu est observé dans la ville de Bangui. Bangui qui est encore plongé dans la psychose suite aux dernières attaques des rebelles de la CPC, repoussées le 13 janvier par les forces armées centrafricaines, leurs alliés et la MINUSCA. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
À moins de 3 mois de la présidentielle au Bénin, une campagne électorale s'est ouverte avec l'annonce récente de la candidature du président Patrice Talon à un second mandat face à une opposition qui dénonce un scrutin verrouillé. Le président Talon, qui à son élection en 2016 avait affirmé vouloir faire un unique mandat, s'est depuis ravisé et s'est officiellement lancé dans la course à la présidentielle prévue le 11 avril. Nous y reviendrons dans la partie magazine. En Ouganda, le leader de l'opposition Bobby Wine reste assigné à résidence. C'est ce qu'affirme son parti au lendemain de l'annonce des résultats contestés de l'élection présidentielle qui a reconduit le président Yoweri Museveni pour un 6e mandat avec 58,6% des voix. Les précisions de John Lyndon.
Deuxième du scrutin avec 34,8%. L'ancien chanteur des reggae, l'ancien politique, Robert Kwagulanyi de son vrai nom, soutient que le scrutin a été entaché de fraude et constitue une mascarade complète. Il n'a pas quitté sa maison de Kampala depuis qu'il est allé voter jeudi et affirme qu'il est assiégé par les soldats et la police qui ont encerclé sa maison, empêchant quiconque d'entrer ou de sortir. Notre leader est effectivement assiégé à résidence, a déclaré le porte-parole de la plateforme de l'unité nationale lors d'une conférence de presse. Selon un tweet du compte de Bobby Wine, écrit par un administrateur, le couple a épuisé ses réserves de nourriture. Le député Francis Sake, arrêté vendredi lors d'une tentative de visite au domicile de Bobby Wine, a été admis à l'hôpital après avoir été sévèrement battu et brutalisé par les forces de sécurité, indique le parti de Bobby Wine. La police annonce également avoir procédé à l'arrestation de plus de 50 personnes en relation avec des violences. Après 5 jours de suspension quasi totale, l'accès à Internet a été partiellement rétabli dans le pays, selon un porte-parole du gouvernement.
L'agence de surveillance des frontières de l'Union européenne, Frontex, et l'opération navale européenne Irini, chargée de contrôler l'embargo sur les armes frappant la Libye, ont annoncé aujourd'hui un renforcement de leur coopération. En vertu de cet accord signé par visioconférence, Frontex et IRINI sont convenus d'intensifier leurs échanges de renseignements et d'expertise, notamment dans l'utilisation coordonnée d'images satellites, l'analyse, la mobilisation de spécialistes et la coordination tactique. Près de 140 personnes ont péri en 3 jours dans des affrontements entre tribus rivales au Darfour au Soudan. Ces violences sont les plus sanglantes depuis la signature en octobre d'un accord de paix entre le gouvernement et des groupes rebelles. Abdelrahman Dia.
Selon Mohamed Saleh, responsable de la tribu Falata, des hommes de la tribu arabe des Rizegat à bord de véhicules, de motos et de chameaux ont lancé une attaque contre le village de Sadoun. Le bilan s'est lourdement alourdi puisque le premier faisait état de 20 morts. Plusieurs maisons ont été incendiées durant l'assaut, a-t-il ajouté. Ces nouvelles violences surviennent après qu'au moins 83 personnes ont été tuées en moins de 48 heures dans des affrontements tribaux dans l'état du Darfour Ouest, un autre état de la vaste région du Darfour. Le Darfour connaît une recrudescence des violences plus de 2 semaines après la fin de la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine, après 13 ans de présence dans le pays. Censé commencer ce mois-ci, le retrait progressif des troupes de la MINUAD sera étalé sur 6 mois. Le gouvernement soudanais doit ensuite prendre la responsabilité de la protection des populations de la région. Le conflit au Darfour, qui a débuté en 2003 entre forces loyales au régime de Khartoum et insurgés, a fait quelque 300 000 morts et plus de 2 500 000 déplacés, essentiellement durant les premières années, selon les Nations Unies.
Le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti aujourd'hui que le monde ferait face à un échec moral catastrophique si les pays riches accaparaient les vaccins contre le Covid-19 au détriment des pays pauvres. Il a fustigé l'attitude égoïste des pays riches et vivement critiqué les fabricants de vaccins qui recherchaient l'approbation réglementaire dans les États riches plutôt que de soumettre leurs données à l'OMS pour obtenir un feu vert à l'échelle mondiale pour l'utilisation du vaccin.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la passation de pouvoir entre le président élu Joe Biden et le sortant Donald Trump aura lieu ce mercredi à Washington en raison des menaces sécuritaires, notamment des groupes extrémistes blancs, la capitale désertée est quadrillée par l'armée depuis plusieurs jours. Bagassi Koura.
Les habitants de Washington sont invités à rester chez eux pour suivre virtuellement la cérémonie d'investiture du 46e président des États-Unis afin de ne prendre aucun risque avec l'épidémie de COVID-19. Ils en seraient de toute façon dissuadés par les gigantesques déploiements des forces de sécurité dans une capitale barricadée et meurtrie par l'assaut du 6 janvier contre le Capitole. L'autre grand absent des cérémonies sera le président sortant. Lorsque Joe Biden prêtera serment mercredi à midi, Donald Trump aura déjà quitté Washington, rompant la tradition d'un transfert du pouvoir pacifique et courtois. Trump a en effet prévu de quitter Washington tôt mercredi. Il est le premier président depuis Andrew Johnson en 1869 à refuser d'assister à la prestation de serment de son successeur. En rupture avec Trump, le vice-président Mike Pence sera présent. Depuis cette insurrection, selon Joe Biden, contre le Congrès, temple de la démocratie américaine, la capitale fédérale est transformée en camp retranché. Plus de 20 000 gardes nationaux, des réservistes de l'armée y patrouillent en armes. Des clôtures grillagées ont été érigées, des blocs de béton disposés pour protéger des monuments comme la Maison Blanche et le Capitole, ou pour boucler des axes entiers pour les vétérans de la guerre d'Irak. Le centre-ville de Washington a des allures de la zone verte de Bagdad.
Un tribunal russe a ordonné aujourd'hui le placement en détention de l'opposant Alexei Navalny pour 30 jours, à compter de son arrestation controversée la veille à son arrivée à Moscou après 5 mois de convalescence. Alexei Navalny est placé en détention pour 30 jours jusqu'au 15 février, a indiqué son avocat Vadim Kopsev sur Twitter. Juste après cette décision, une vidéo de l'opposant filmée dans la salle d'audience a été diffusée sur les réseaux sociaux. Il appelle les Russes à porter le combat de l'opposition dans la rue. Les États membres de l'Union européenne ont condamné aujourd'hui l'arrestation de Navalny et demandé sa libération immédiate dans une déclaration publiée au nom des 27 par le chef de la diplomatie, Josep Borrell. Plusieurs d'entre eux ont par ailleurs demandé l'adoption de nouvelles sanctions contre la Russie si les appels à libérer l'opposant russe restent lettre morte. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par John Linden.
Le déficit commercial du Sénégal s'est dégradé de 53,1 milliards de francs CFA à un rythme mensuel pour s'établir à 169,7 milliards de francs CFA à la fin du mois de novembre 2020. C'est ce qu'indiquent les données établies par la Direction de la prévision et des études économiques qui ajoutent que cette situation résulte d'une hausse des exportations de biens moins importante que celle des importations. La DPEE précise d'autre part que le taux de couverture des importations par les exportations est estimée à 43,2% contre 47,71% en octobre 2020, soit un recul de 4,5 points de pourcentage. Au Cameroun, Proparco et la Société Générale s'associent pour la relance des entreprises post-Covid. Les deux entités ont signé un partenariat permettant aux entreprises d'accéder au financement bancaire en vue de relancer leurs activités durement frappées par la crise sanitaire liée au coronavirus. À en croire Financial Afrique, cet accord pourrait permettre aux entreprises de se voir octroyer des prêts de 12 à 48 mois représentant jusqu'à 3 mois du chiffre d'affaires de l'année 2019, garanti à hauteur des 80% par le groupe AFD.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Démarré samedi dernier, le 6e championnat d'Afrique des Nations se poursuit au Cameroun. Le groupe C est entré en compétition aujourd'hui à Douala au stade de la réunification. Le champion en titre, le Maroc, a battu le Togo 1-0. Le second match de la soirée oppose le Rwanda à l'Ouganda. Les Amavubi rwandais croisent leur ancien entraîneur Jonathan McNistry, aujourd'hui à la tête des crânes de l'Ouganda. Hier, dans le groupe B, au stade Japoma, la République démocratique du Congo, vainqueur du Congo 1-0 dans le derby, a pris la tête du groupe devant la Libye et le Niger qui se sont neutralisés 0-0. Athlétisme, Hugues Fabrice Zango a explosé le record du monde du triple saut en salle. Le Burkinabé a réussi un immense exploit au Bière en France avec un saut de 18,07 m, pulvérisant le record du monde en salle précédemment établi par son entraîneur, le Français Teddy Tamgo.
Franchement, je suis très 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 content d'avoir pu obtenir ce nouveau record, qui est l'ancien record de mon coach. Faire 18 mètres en salle, c'est la première fois qu'un humain réussit à franchir cette barrière en salle. Et pour moi, c'est une très, très, très grande joie d'être le premier. Je ne fais qu'en profiter avec les proches. Je profite des félicitations de tout le monde. Et je ressens plein de gratitude avec toutes ces personnes qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu.
Hugues Fabrice Zango au micro de notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré. À 27 ans, il explose du même coup sa meilleure performance personnelle réalisée en janvier 2020, qui est de 17,77 m. Son record en plein air est de 17,66 m, record d'Afrique. Handball, le mondial masculin bat son plein en Égypte. Fortune diverse pour les représentants africains. L'Égypte a signé sa deuxième victoire cette fois face à la Macédoine 20-6. Par contre, après sa victoire inaugurale, l'Algérie a perdu son second match face à l'Islande 24-39. De son côté, la Tunisie a été accrochée par le Brésil 32-32. Le Maroc, qui fait face ce soir à l'Islande pour sa troisième sortie, a essuyé un second revers devant le Portugal 20-33, tout comme l'Angola devant la Croatie 20-28 et la RDC face à la Norvège 19-39. Des résultats de la nuit dernière en NBA, Utah s'est imposé 109-105 devant les Nuggets de Denver. Les Los Angeles Clippers ont étrié Indiana 129-96. Le prodige slovène Luka Doncic a encore livré un récital 36 points, 16 rebonds et 15 passes décisives, le 29e triple-double de sa jeune carrière, qui le voit à 21 ans seulement dépasser Michael Jordan au 15e rang de l'histoire de la Ligue. Mais il n'a pas pu empêcher la défaite de Dallas face à Chicago 117-101. Les Boston Celtics ont été corrigés par New York 105-75.
C'est l'espoir de Yacouba Ouedraogo. Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakiza toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Ouverture de la campagne électorale au Bénin en vue de la présidentielle du 11 avril. Le président Patrice Talon, qui avait affirmé vouloir s'en tenir à un seul mandat, s'est officiellement lancé dans la course. Pour l'opposition, sa candidature ne faisait aucun doute. Les précisions de Ginette Fleur-Adambé.
Si nous avons fait 22 stades en un mandat encore et c'est fini, a lancé Patrice Talon sous les applaudissements d'une foule venue l'écouter, alors que l'opposition avait du mal à digérer la prorogation de 45 jours du mandat de Patrice Talon, celui-ci vient corser la note en se déclarant candidat aux élections du 11 avril prochain. Passé l'étonnement, l'opposition réitère sa détermination à provoquer l'alternance au sommet de l'État dans 3 mois. Éric Rondeté en est convaincu. Pour lui, Patrick Talon ne sera pas le prochain président de la République.
N'ayez pas peur. Si Patrick Talon ne met pas sur notre chemin sa police politique, les armes que nous avons achetées nous-mêmes, vous n'aurez aucun effort à faire pour que nous gagnions Patrick Talon en 2021. Mais il va tenter de nous perturber.
L'opposition béninoise continue de chercher le bout par lequel mener la lutte pour une alternance au Bénin. Après la résistance menée par les anciens présidents Nicéphore Soglo et Yahya Boni, c'est le tour du Front Uni pour la restauration de la démocratie de voir le jour. Ses membres, pour la plupart issus du mouvement de la résistance, réclament entre autres l'abrogation de certaines lois et la tenue d'un dialogue politique avant les élections. Valentin Aditi-Houlé est le porte-parole du Front.
Le Front pour la restauration de la démocratie collectif de l'opposition exige l'application immédiate des arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, demandant le maintien de la constitution du 11 décembre 1990, l'organisation d'un dialogue inclusif de tous les acteurs de la vie politique afin de déterminer de façon consensuelle les modalités d'une élection pacifique et démocratique.
Candide Azanoye, ancien ministre de la Défense de Patrice Talon et aujourd'hui opposant indépendant, se désole de l'ossature actuelle de l'opposition qui, telle que composée, n'est pas de taille face au pouvoir actuel.
Qui parmi eux ne fait pas d'Atalon parmi eux? Il n'a qu'à se dire un à un, je vais les voir. Aucun. Ce n'est même pas Talon qui s'occupe de ces personnes. C'est les petits juges là qui les terrorisent et ils escaladent les murs.
En annonçant son intention de briguer un deuxième mandat, Patrice Talon revient sur sa décision de ne faire qu'un seul mandat. Selon certains observateurs politiques, le mandat unique n'était qu'un pion de jeu politique mis en place par Patrice Talon pour déstabiliser l'opposition.
Le mandat appartient à un système. C'est un groupe qui s'assoit, qui met en place un système. Et ce système est appelé à durer le plus longtemps possible pour que le travail qui se fait ait de suite et de suivi. Ce qu'on doit bien faire, c'est de faire en sorte que dans le pays s'installent 2 ou 3 groupes qui discutent le pouvoir.
En 5 ans, il va initier un certain nombre de choses maintenant. On va aller à la recherche du financement de tout ce qu'il veut faire. Le temps de commencer et que ça avance, bon, les 5 ans, ça passe vite.
Les prochains jours risquent d'être éprouvants pour de potentiels candidats qui doivent faire face à l'épineuse question du parrainage. Les partis politiques dans un mouvement d'ensemble choisissent depuis samedi le candidat Patrice Talon. Et quand on sait que peu de partis politiques ont une existence légale, on se demande si les vieux démons de l'exclusion qui ont entaché les législatives ne seront pas de retour. De Cotonou, Ginette Fleur Adani pour VOA Afrique.
La journée Martin Luther King, célébrée dans un contexte particulier cette année aux États-Unis, avec la montée du mouvement Black Lives Matter. Martin Luther King Jr. s'est frayé un chemin dans l'histoire en tant que héros des droits civiques, dont l'influence et l'héritage continuent d'inspirer plus d'un demi-siècle après sa mort. Nathalie Barge a joint le professeur Franz-Antoine Lecomte de la City University de New York qui revient sur son contexte.
C'est un jour, si vous voulez, porteur d'espoir et puis porteur d'inquiétude également, parce qu'on sait que le président élu a pu sélectionner un groupe de gens très très bien équipés pour cette nouvelle situation qui s'annonce. Mais c'est un jour qui nous apporte des inquiétudes parce qu'on sait qu'il y a certaines forces qui vont rester aux États-Unis et qui pourraient être utilisées dans un sens pour saboter la nouveauté que voudra installer la nouvelle équipe. Alors, c'est une sorte de mélange d'inquiétude et d'espoir à la fois.
Alors, selon vous, quelle comparaison faire entre l'époque de Martin Luther King et le mouvement Black Lives Matter?
De toute façon, il y a des différences. Quand on parle de l'époque de Martin Luther King, c'était vraiment la grande lutte, c'est-à-dire au niveau global, c'est-à-dire dans les frontières américaines. Quand on parle de Martin Luther King, justement, on renvoie à une sorte de leadership tout à fait positif, qui pense à une amélioration sociale, économique, politique, si vous voulez, de l'homme noir aux États-Unis, d'ailleurs, grandi comme ancien esclave, etc. Donc n'oublions pas que les États-Unis, c'est un pays qui a connu l'esclavage. Et par exemple, nous avons beaucoup d'admiration pour le père fondateur, si vous voulez, des États-Unis d'Amérique, Washington. Malgré la liberté, si vous voulez, pour laquelle il a lutté pour que les États-Unis puissent couper les ponts avec l'Angleterre, c'est-à-dire devenir une terre libre, mais lui, il n'a pas libéré ses esclaves et il est mort sans les avoir libérés. Donc on peut voir que les États-Unis, il y a certains préjugés qui font partie même de la culture même de cette terre. Et je crois qu'il faudra lutter davantage, c'est-à-dire Martin Luther King, c'était un grand devancier, un grand homme, tout à fait incomparable, un petit peu comme Gandhi, etc., comme Toussaint Louverture, comme enfin les gens qui ont lutté pour l'indépendance, si vous voulez, de leur peuple. Mais les États-Unis se trouvent dans une situation où les minoritaires, si vous voulez, sont un peu opprimés, c'est-à-dire au point de vue économique, au point de vue social, au point de vue politique. Mais je crois qu'il y a une différence énorme. Nous avons eu un président noir aux États-Unis, maintenant nous allons avoir une vice-présidente noire, donc alors les choses bougent pour les minoritaires.
Le professeur Franz Antoine Lecomte, joint à New York. C'est mercredi que Joe Biden, président élu des États-Unis, prêtera serment sur les marches du Capitole à Washington en tant que 46e président des États-Unis. L'événement spécial de haute sécurité nationale intervient alors que des groupes extrémistes nationaux pourraient à nouveau protester contre les résultats de la présidentielle du 3 novembre. Suivons cela dans ce reportage de Michel Quinn, récit John Lyndon.
Des gardes armés à travers la capitale américaine s'emploient à assurer que l'investiture cette semaine de Joe Biden comme 46e président des États-Unis se déroule de manière pacifique. La cérémonie, déjà modifiée à cause de la pandémie, sera encore plus restreinte après les violences qui ont secoué le Capitole le 6 janvier dernier. L'équipe de Joe Biden laisse entendre que cette investiture enverra un signal visuel aux Américains et au monde sur la résilience de la démocratie américaine. Kate Bedingfield, future directrice de la communication de la Maison-Blanche.
Nous attendons avec impatience que le président élu Biden prête serment le 20 janvier à midi.
Le président Donald Trump n'a pas l'intention d'assister à la prestation des serments de Joe Biden. Au lieu de cela, Trump prévoit d'organiser une cérémonie de revoir à la base militaire d'Andrew dans le Maryland, avant de monter à bord une dernière fois du Air Force One en direction de Palm Beach en Floride. Il quitte la Maison Blanche avec un taux d'approbation de 29%, le plus bas de sa présidence selon le Pew Research Center. Dans tout le pays, les sièges des assemblées des États ont aussi renforcé leur sécurité en prévision des manifestants par ceux qui, à tort, prétendent que les élections du 3 novembre ont été volées à Trump. Dans la ville d'Olympia, capitale de l'État de Washington, de hautes clôtures ont été installées autour du bâtiment du Capitole en prévision des manifestations. Joe, un résident d'Olympia dans l'État de Washington.
Eh bien, je suis déçu que nous soyons à cette phase, que nous devions installer des barrières pour empêcher les gens qui n'ont aucune idée de ce qu'être un Américain et qui attaquent notre démocratie.
John Hess, partisan de Trump dans l'État de Washington.
The fences and stuff are against people like me. Because what's happened here is...
Ces clôtures sont faites pour des gens comme moi, parce que ce qui s'est passé ici, c'est que l'État a reconnu que la majorité des gens ne croient pas que cette élection était légitime. Pour défendre l'élection contre la majorité du peuple, voilà ce qu'ils font. Donc ils dressent les clôtures et font venir des gardes armés pour défendre une élection volée.
En s'adressant à une nation divisée, le discours d'investiture de Biden se concentrera probablement sur l'unité. Kate Bedingfield, nouvelle directrice des communications de la Maison-Blanche.
Je pense que vous pouvez vous attendre à ce que ce soit un moment où le président élu Joe Biden travaillera vraiment pour essayer de tourner la page sur les divisions et la haine de ces quatre dernières années et de vraiment présenter une vision positive et optimiste du pays et tracer une voie à suivre qui nous invite tous à travailler ensemble.
Et le moins qu'on puisse dire est qu'une investiture présidentielle en pleine pandémie et en période de troubles a un objectif principal, envoyer un message fort à la nation et au monde.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui. À la mise en onde, Lionel Lunanilagahima, Michel Joseph, Georges Léonard Sagnon et Josène Morissin. À la présentation, Eric Manilakiza. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le troisième lundi de janvier, nous honorons la mémoire de Martin Luther King Jr. Pasteur baptiste de l'État de l'Alabama, M. King était un dirigeant du mouvement des droits civiques des États-Unis qui prônait le changement social par des moyens non violents. Les plus grandes réalisations de M. King sont venues avec l'adoption de la loi de 1964 sur les droits civiques interdisant la discrimination et la ségrégation en matière d'emploi dans les lieux publics et la loi de 1965 sur le droit de vote. Ces deux victoires ont eu un impact majeur, non seulement sur les États-Unis, mais partout dans le monde. La lutte de M. King contre l'injustice raciale ne s'est pas étendue à la promotion de l'égalité raciale par le droit international. Néanmoins, ses paroles et ses actions ont servi d'inspiration à des dizaines d'hommes et des femmes à travers le monde qui luttaient contre le colonialisme, l'apartheid et l'injustice raciale. L'après-Seconde Guerre mondiale s'est distinguée par la décolonisation dans le monde entier. Des nouveaux pays sont nés d'anciennes colonies et, entre 1945 et le début des années 1960, le nombre des membres des Nations Unies a plus que doublé pour atteindre 115. Près de 75% des nouveaux membres étaient des pays en développement dont la population avait trop souvent souffert des lois discriminatoires et des pratiques injustes. Bon nombre des représentants de ces nouveaux États ont été inspirés par la campagne de résistance pacifique de M. King et son effet direct sur l'adoption de la loi sur les droits civiques. Il n'est donc pas étonnant que leurs priorités soient très différentes de celles du monde industrialisé et qu'ils aient porté leur lutte aux Nations Unies, le principal forum de résolution pacifique des conflits. Leurs délégués étaient nombreux et par conséquent, ils ont pu fixer les sujets de débat et ils étaient unis dans leur volonté de lutter contre l'injustice raciale. Le résultat était l'adoption en 1965 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. L'année suivante, l'ONU a adopté le Pacte international pour les droits civils et politiques et le Pacte international sur les droits économiques et sociaux, considérés comme les deux traités les plus importants en matière de droits de l'homme depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Partout dans le monde, comme une fièvre, le mouvement pour la liberté s'est répandu en libération la plus vaste de l'histoire. Les grandes masses sont déterminées à mettre fin à l'exploitation de leur race et de leur terre, a déclaré le Dr King dans son discours d'acceptation du prix Nobel de la paix en 1964, l'une des rares fois où il a abordé la lutte mondiale pour l'égalité raciale. Ce que nous voyons maintenant, c'est une explosion de la liberté.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.